Je me souviens. Je coupe à travers champs, laisse un sillon dans les blés derrière moi. Je dévale la maigre pente et rejoins le fond de la vallée. Chaque été, elle était là. Son fil ténu ne me faussait jamais compagnie. La Cis, rivière qui a sculpté une vallée et forgé mes souvenirs d'enfant. Je me souviens. Une fois, équipée de mon sac à dos, je m'étais mis en tête de la suivre, de long en large et en travers. Depuis les plateaux fertiles de la Beauce, aux couleurs céréalières, j'ai suivi son cours. Sur la berge, un groupe de personnes s'active en discussion. Je reconnais Isabelle, présidente d'Artesis, et Ludovic, du syndicat du bassin de la Cisse. Ils sont là pour le festival H2O. Cette année-là, je le découvre.
Il suffit de traverser la forêt de bois et on est dans la vallée de la Cisse. Mais c'est méconnu alors que c'est quelque chose de très riche sur tous les plans, c'est-à-dire aussi bien sur le plan paysager que le plan culturel, patrimoine.
Nous, on a trouvé plutôt pas mal de s'associer avec Artesis, enfin le festival H2O, parce que déjà, ça parle de la même rivière. Et puis un peu les mêmes objectifs en termes environnementaux. Et puis on s'est dit, ça nous permet d'ouvrir un peu les champs et de faire venir les gens, pas que pour la rivière, mais aussi pour le domaine artistique. Donc c'est pour ça qu'on est associé avec Isabelle Larocha sur ce festival depuis le début, depuis 2 ans.
Parce que justement, on est sur un territoire qui est vaste. L'année dernière, on était sur 32 km, cette fois-ci, on est sur 80. C'est-à-dire qu'on va jusque sur l'Indre-et-Loire. Et en fait, comme on est tout jeune et que aussi on apprend, pour l'instant, on fait des zigzags comme ça d'un lieu à un autre, mais parce que il faut jongler entre les disponibilités des lieux, les disponibilités des artistes, des intervenants, etc. Et que, à la base, moi, j'ai choisi des intervenants par rapport à des lieux. Et donc j'ai complexifié la chose. Donc on va essayer à l'avenir d'être un peu plus simple parce que c'est très très lourd à porter et qu'on est une toute petite équipe. Mais bon, c'est plutôt sympathique. Nous, on voudrait vraiment être intergénérationnel. Se sortir de... moi, ce que j'ai vécu toute ma vie, c'est des cloisonnements que l'on a créés. La société a créé des cloisonnements. Avant, les générations vivaient ensemble. Et on sensibilise des enfants qui, eux, vont jouer un rôle auprès de leurs parents qui va être important parce qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient hyper sensibles à la problématique de l'environnement. Il y a toute une génération qui est en train d'arriver, qui est très sensible à l'environnement, à l'écologie, à la nature, etc. Et ça, c'est formidable.
Je reprends ma course avec la Cis. Je me revois slalomant entre les branches des aulnes centenaires. Lorsque les ronces deviennent infranchissables, je me décide enfin à mettre les pieds dans l'eau fraîche. Un faible courant me chatouille les pieds. Soudain, un abri se dessine sur la rive. À l'intérieur, une fresque. Une inondation, un territoire bouleversé, la protection d'un lieu de vie.
Donc lui, sa mission, c'était de rencontrer des acteurs de l'eau. Donc Ludovic et Valentin du syndicat Mix, il a fait une tournée dans toute la vallée de la Cisse d'emblée. Une journée bien fatigante, 280 km dans la vallée de la Cisse. Ensuite, il a rencontré le directeur d'un refuge d'animaux qui est à Molineuf, parce que son sujet, c'est la Cisse, l'inondation 2016, la faune et la flore.
J'ai une fille dans mon studio, je mène des recherches, et de l'autre côté, je dessine ce genre de choses. Là, cette fois-là, c'était chose de différent, parce qu'on est passé d'une interview individuelle à une interview d'un territoire. Et c'est beaucoup différent. Parce qu'il faut écouter. Déjà, il faut écouter beaucoup, et normalement, et Et cette fois-ci, il fallait écouter beaucoup de gens qui ont des points de vue beaucoup différents. Le seul travail que je fais, c'est écouter beaucoup et essayer de faire quelque chose qui peut rester aux citoyens. Ça, c'est la seule chose qu'à niveau artistique, à mon niveau, je peux faire. Ça produit un petit changement. On ne croit pas qu'il peut y avoir des grands changements sans des petites actions dans les territoires. Donc, ça, c'est plus ou moins ce que j'ai fait.
C'est un cas d'école, hein, c'est vraiment un cas d'école parce qu'on a la tête de bassin, donc la 6 amont, qu'on appelle aussi la haute 6, qui est en Beauce, plaine céréalière, beaucoup d'usages, des territoires qui sont des plateaux avec un système karstique, donc c'est très, très calcaire, ça ruisselle, c'est vraiment un paysage à part entière. Et puis dès qu'on arrive en 6 moyenne, du coup, qui se trouve entre Saint-Bohaire et puis Chauzy, là on est sur des terrains beaucoup plus forestiers avec aussi des pentes plus abruptes. Donc techniquement aussi ça veut dire qu'il y a plus de ruissellement, que l'eau coule plus vite. C'est là où on trouve tous les moulins, parce qu'il y a plus de pentes, donc plus de moulins. En plus c'est bien parce que c'est en aval de la Beauce, donc le blé arrive direct à l'époque, hein, le blé arrivait direct et hop, était travaillé par les moulins ici et repartait par la Loire. Et puis vous avez la 6 ligérienne qui se trouve dans le Val ligérien, dans la Loire, qui est très transformée, très lié au digue de Loire, hein. Donc c'est un cours d'eau qui est très morphologiquement très transformé, et puis avec une population beaucoup plus importante, on arrive vers vers Tours à Vouvray. Et donc c'est 3-6 complètement différentes qui fonctionnent de manière complètement différente.
On a voyagé pour 180 km au bord et dans les zones humides, et moi, j'ai pu voir une petite quantité des lieux qui sont touchés par la 6, mais je me rends compte que c'est quelque chose d'assez assez vaste.
Moi, ce qui m'étonne surtout souvent dans les vallées, c'est que c'est la longueur, en fait. Parce que celle-là, je suis sûr qu'elle fait une centaine de kilomètres, non ?
Un peu plus, oui.
La vallée de la Loire, c'est 300. En fait, on est toujours étonné qu'une rivière soit aussi longue. Il y en a beaucoup qui sont assez longues, en fait.
Oui.
Moi, ce que j'aime bien, c'est que les vallées, en général, c'est qu'elles sont dans des... C'est une fracture, en fait, par rapport au reste du paysage. Enfin, surtout, je vois à Vendôme, nous, on est dans la Beauce, et la Beauce, on la sent pas du tout, quoi. Parce que... on est dans la vallée, et c'est autre chose, c'est drôle. On est dans la Beauce, mais on est dans la vallée, donc c'est comme ça, je pense.
Le paysage qui m'entoure a changé. Dans cette petite vallée de plus en plus encaissée, au détour d'un méandre, un mirage m'apparaît. Les murmures de l'eau m'entraînent vers trois nénuphars où des nymphes semblent s'être assoupies. Les clichés d'Ophélia III, œuvre d'Alexis Pendelé, repose sur une corolle d'osier, non loin des rives d'un étang forestier.
J'avais envie de m'inscrire dans un thème vraiment, vraiment très très récurrent dans beaucoup de tableaux depuis le 19e siècle. Il y a le thème de l'Ophélie qui a été utilisé. Et au départ, je mettais ça sur des barques. Donc, j'avais des vieilles barques très grandes de 4 mètres. Et je trouvais que c'était intéressant, une image qui se noie et qui flotte. Il y avait, pour moi, il y en a qui ont vu quelque chose d'assez morbide aussi, comme si c'était des noyés, mais pour moi c'est plutôt lié au rêve en fait, au voyage.
D'accord. J'ai cherché l'endroit, au début, comme j'avais trouvé une racine, j'ai cherché, ouais. Je marchais, je cherchais d'autres racines, etc.
Ouais, ouais.
Et puis ensuite, tu es
ouais.
Bien.
Ouais, ouais.
Ça t'apporte c'est une frais. Fraîcheur. Dès que j'avais chaud, hop, je m'aspergeais avec de l'eau de
ouais.
L'étang.
Ouais, ouais.
Et donc, je m'enfonçais dans la vase, donc le temps de retirer, etc., j'étais avec les bâtons. Et comme j'avançais avec les bâtons,
ouais.
Tu sais, pour ne pas perdre l'équilibre,
oui.
Etc., c'est ça qui m'a donné l'idée. Je me dis, je vais planter mes bâtons dans l'eau, dans la vase,
voilà,
et, ça tient, et ça tient super bien.
Je me souviens d'un dédale parcourant une zone humide.
Et j'ai décidé de tourner au mois d'octobre. Octobre ou novembre, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il faisait froid et il y avait toutes les couleurs de l'automne. Et mon but, voilà, c'était de représenter une femme.
Mais alors, c'était une troupe qui venait de Aubervilliers. Et très franchement, voir une troupe de 14 artistes à Aubervilliers jouer la musique un peu décalée et puis une reprise de 20 milieux sous les mers dans une ferme avec les chevaux à côté, les cochons entre les voilà, et le marais juste derrière, on peut pas être plus que dans l'Assise, quoi. Et
Lisca Lorca, quand elle a fait sa performance dans l'eau, c'était mais les gens pleuraient. Il y avait 50 personnes, les gens pleuraient. Tellement c'était émouvant.
Je me souviens. J'ai d'abord entendu des clameurs lointaines. On s'affaire autour d'un barrage. Aujourd'hui, on enlève les bastings et l'eau se libère de son carcan.
En fait, le moulin d'arrivée, on est intervenu en 2010. Donc ce qu'on a proposé, c'est de mettre en place, donc d'enlever le barrage existant, qui était un muret béton qui retenait l'eau sur 80 cm de haut et sur 700 m de longueur. Donc ça permettait de répartir l'eau, enfin, d'envoyer toute l'eau, quasiment, vers le moulin. Donc nous, ce qu'on a dit, voilà, on comprend l'enjeu patrimonial, c'est quand même assez important, c'est l'un des derniers moulins qui existent sur l'Assise, donc il y a un côté patrimonial, historique. Donc c'est vrai que c'est important de maintenir la possibilité de faire tourner la roue avec la seule force motrice. Donc ce qu'on a proposé, c'est un nouveau droit d'eau qui consiste à remettre en place des planches en bois, qu'on appelle des bastings. Donc il y a 4 fois 5, donc il y a 20 planches entre 1m30 et 2m50 de grandeur, qui se mettent donc dans le fil du courant pour répartir l'eau, rehausser la lame d'eau comme c'était, on va dire, quand les moulins étaient encore en activité. Et ça, on fait ça trois fois par an. Et l'autorisation, c'est 3 fois par an pendant 3 jours maximum. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Donc on a mis en place les bastings, ça a permis de faire tourner la roue pendant la journée des moulins. Et puis nous ensuite on vient enlever les bastings progressivement pour éviter quand même qu'il y ait des inondations sur la partie aval. Donc ça fait beaucoup d'eau, ça, on enlève tout d'un seul coup. Déjà à mon avis nous on part avec, je pense, et puis ensuite ça peut poser problème sur l'ouvrage qui se trouve après. Donc vaut mieux éviter, donc on le fait progressivement. Et en faisant comme ça, finalement, en fait, c'est un bon compromis parce que ça permet, en plus d'alimenter un peu le marais, là, qui se trouve le marais latéral, donc ça permet de l'alimenter pendant cette phase-là. Ça permet aux jeunes, enfin, et aux moins jeunes, de venir voir comment fonctionne un moulin. Et puis, 3 jours par an, très franchement, ça pose pas de problème. Surtout qu'on est hors période de circulation des poissons, ces périodes-là. Donc ça va, on n'aurait pas le droit de le faire au moment de la fraie des poissons. Là, quand les poissons circulent dans le cours d'eau, ce barrage-là arrête toute circulation possible, à part les anguilles qui peuvent passer par le marais. Mais sinon,
Le moulin d'arrivée, vestige d'un passé pastoral, s'accroche sur la rivière.
Quand tout se passe bien, nous, notre travail, alors de toute façon, ça c'est le travail principal du syndicat, on a comme objectif de restaurer la Cisse et ses affluents dans ce qu'on appelle un bon état écologique. Donc ça, c'est très réglementaire, le bon état écologique. Alors il y a tout plein de paramètres pour expliquer ça, je vais vous passer les détails, mais c'est tout ce qui concerne la qualité de l'eau d'un côté, ce qu'on appelle la physicochimie, et ensuite ce qu'on appelle la biologie, c'est-à-dire le fonctionnement naturel d'un cours d'eau. Donc en gros, notre boulot, c'est de faire en sorte que la Cisse et ses affluents atteignent un bon état écologique. L'eau est un bien commun de la nation, donc ça appartient à tout le monde. Donc autant faire en sorte que ce bien commun soit en bon état, puisque ça appartient à tout le monde, c'est quand même mieux que ça soit en bon état qu'en mauvais état. Donc ça, c'est un peu le côté philosophique, on va dire. Après, d'un point de vue technique, alors je vais prendre plusieurs exemples. Le premier, c'est pour les communes de la vallée, avoir un cours d'eau qui est envasé, en mauvais état, qui n'a pas de poisson, qui est même d'un point de vue paysager plutôt moche, on va dire. C'est pas extrêmement vendeur d'un point de vue touristique. On est quand même dans le périmètre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc d'un point de vue touristique, restaurer des cours d'eau en bon état. Alors en bon état pour nous, il y a le côté, ce que je vous ai parlé, chimique, morphologique, etc. Mais bon état, ça veut dire aussi un cours d'eau qui fonctionne tout seul. Et donc en règle générale, qui a une diversité d'habitats, donc une diversité de paysages, sur lequel l'homme n'a pas besoin d'agir. Donc déjà d'un point de vue économique, pour l'attrait touristique, un cours d'eau en bon état, d'un point de vue paysager, c'est toujours plus attrayant. Donc, pour les communes, ça veut dire aussi un cachet supplémentaire par rapport à un cours d'eau qui est tout dégueulasse. Excusez-moi du terme. Deuxièmement, d'un point de vue économique, lorsqu'un cours d'eau fonctionne, est en bon état de fonctionnement, l'homme n'a pas besoin d'agir dessus. Pas de curage, quasiment pas d'entretien, puisque le cours d'eau s'auto-gère lui-même, s'auto-épure lui-même. Donc à la longue, on va dire même à moyen terme, c'est bénéfique d'un point de vue économique. On n'a plus besoin d'agir.
La CIS, simple cours d'eau, dessine un vaste territoire. Le festival H2O ponctue la vallée de ses installations artistiques et fédère autant les acteurs que les habitants et visiteurs. La vallée est le cadre du spectacle et le support d'une sensibilisation à la fragilité des milieux naturels.
On a atteint les débits de crise depuis 2 jours et donc là c'est une... Enfin oui, on nous appelle de partout pour nous dire « il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est vraiment... C'est aussi une période un peu difficile, on va dire, en ce moment. Ils nous disent « ah oui, en 76, il faisait beaucoup plus chaud. » Oui, mais les nappes n'étaient pas dans le même état. Parce qu'aujourd'hui, les nappes sont très basses. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas de recharge l'hiver en nappe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les inondations de l'année dernière, c'était au mois de juin. Ce n'était pas en novembre-décembre. Or, les nappes se rechargent qu'à partir, entre le mois de novembre et le mois de mars. Au-delà, après, c'est soit du ruissellement, comme on a vécu l'année dernière.
Les inondations de l'année dernière étaient extrêmement importantes. Beaucoup de gens ont déjà oublié, alors que c'était vraiment des inondations. Moi, j'avais jamais vu ça, j'en ai vu des inondations, mais alors ça, j'avais jamais vu. Donc, et les principales victimes ont été les animaux. Alors les animaux, soit parce qu'ils étaient emportés par les eaux, comme par exemple les poissons sortaient du lit de la rivière, étaient emmenés par les flots au milieu des champs, et puis après, voilà. Il y a beaucoup d'oiseaux qui nidifient au sol, donc là c'est pareil, emportés par les eaux. Les chevreuils, emportés par les eaux, parce que c'était au fin mai, début juin, donc c'était juste, ils venaient juste de naître, etc. Mais alors la plus grosse cause de mortalité n'a pas été l'eau et la noyade, ça a été l'empoisonnement. Donc l'empoisonnement par les produits toxiques qui sont dans le sol et qui tue.
Je me souviens. Je quitte l'animation du cours d'eau et rejoins la terre ferme. Face à moi, une falaise mitée par des habitations troglodytes. Je m'engage dans une de ces cavernes où l'artiste Yubi termine sa 2e fresque dans un silence presque religieux. Comme inspiration pour représenter le végétal, il a choisi la feuille de chêne. Elle est omniprésente le long de la CIS et devient une image obsédante sur le tableau. Entourée par la fraîcheur de la pierre, la scène qui se déroule face à moi me déroute. Inondations, territoires ravagés, animaux torturés. Espoir, échappatoire, un chaos palpable.
Mais on a tendance, pour certains, à vouloir aller plus loin, et c'est là qu'on déséquilibre le travail. Mais dès qu'on se pose la question « est-ce fini ou pas ?», la réponse, elle est claire, c'est fini.
Les caves troglodytes, j'en cherche d'autres pour intervenir, parce que là, la présence de l'eau est importante. C'est très... Une cave troglodyte, en fait, on n'a pas l'impression, puisque c'est dans la roche. Sauf qu'il y a de l'humidité, qu'il y a une présence constante de l'eau qui est là, sous une autre forme, complètement sous une autre forme. C'est pas la rivière, c'est entre gazeux et liquide, c'est surtout une forme un peu gazeuse. Voilà, où on est, on sent l'humidité, mais elle n'est pas liquide, elle n'est pas solide. Voilà, c'est impalpable.
Je sors de la grotte et escalade le promontoire. De là-haut, j'embrasse du regard la vallée de la Cis. Face à ce paysage fragile, je me remémore des bribes de conversation.
Et là, donc, on domine la vallée de la Cis et la vallée de la Loire, qui sont les deux étant très très proches. Donc la première frange comme ça d'arbres et de lignes, c'est la Cisse, et derrière, voilà, on a la Loire, qu'on ne voit pas, mais qu'on devine. Très important pour nous, c'est il ne s'agit pas de culpabiliser les gens. Comme dans le film, c'est la même démarche, c'est-à-dire qu'on veut les ramener vers la source, vers la nature, mais avec du bonheur. Avec, comme disait hier Alexis Tricouard, du désir. Les amener à redécouvrir et à aimer. Et parce qu'en fait, j'ai plusieurs artistes qui le disent, et moi je le dis aussi, c'est qu'on protège ce que l'on aime. Et par contre, si on culpabilise les personnes par rapport à l'écologie, leur mode de vie, etc., là, on crée des freins, des blocages, et on n'y arrivera pas.
Alors quoi de mieux qu'un petit gamin avec sa maman, il est venu au bord du cours d'eau, et sa maman l'a laissé aller parce qu'en fait le cours d'eau était beaucoup moins abrupt que c'était avant. On a fait des berges en pente douce, donc ils ont pu accéder plus facilement à la rivière. Le gamin voit un brochet juste devant lui dans de l'eau qui était beaucoup plus claire. Il dit regarde maman, il y a un poisson. Et ça, très franchement, c'est ça qui est un peu recherché, quoi. Que les gens retournent à la rivière et qu'on voit des poissons dans l'eau, c'est...
Le soleil me brûle la peau. Je me hâte de rejoindre la Cis et sa fraîcheur bienvenue. Dans quelques kilomètres, j'atteindrai la Loire et ses paysages ouverts.
Quand même, qui me tient à cœur, c'est les marais de la Haute-Cis. Parce que il y a un côté un peu décalé dans ce paysage-là. C'est, vous êtes en pleine Beauce. Alors, vous voyez les champs de céréales. À perte de vue, ça paraît un peu lunaire, même presque, des fois. Et puis en fait, si vous approchez un petit peu, la vallée de la Cisse, elle est relativement encaissée dans ce plateau-là. Donc de loin, en fait, on la voit pas. Et quand on s'approche un petit peu, vous avez une bande de, on va dire, entre 200 et 400 mètres, qui sont complètement encaissées entre les plateaux. Et alors là, c'est une vie pas possible, puisque autour, il y a moins de diversité. Donc du coup, les espèces ont du mal un petit peu à... Ou en tout cas, ils sont peut-être plutôt même en symbiose parfois, puisqu'ils trouvent la nourriture dans les champs et puis après, ils viennent dans les marais ou vice-versa. Et donc, pour moi, c'est ce secteur-là, entre Averdon, enfin, entre Boisseau et Averdon. Il y a tout un secteur comme ça, et en plus, c'est méconnu de tout le monde. Et moi, je trouve que les interventions des artistes qu'il y a eu, ceux que j'ai vus en tout cas, c'était de super bonne qualité. Et je trouve que peut-être que le fait que ce soit quelque chose d'un peu décalé par rapport au territoire, parce que c'est quand même des pointures qui viennent et les gens connaissent peut-être pas forcément, et ils se sont peut-être dit la même chose que moi au début, la première année, c'est-à-dire bah, moi j'y vais pas parce que moi je connais pas. Enfin, et c'est dommage parce qu'il mérite d'y avoir plus de monde.
Je me souviens d'un cours d'eau discret, mais essentiel pour la vallée. Les lavandières y ont usé leur linge, les moulins ont rythmé le débit de la rivière. Les enfants s'y sont baignés, sous le regard méfiant des jardiniers, remplissant leurs arrosoirs un jour de forte chaleur estivale. Le festival H2O dans cette vallée tranquille bouscule les habitudes et engage une redécouverte de ses paysages, de ses ambiances et de ses potentiels. Chaque année, le thème central de l'eau apporte de nouvelles déclinaisons. Sur une toile de fond artistique, des problématiques écologiques et citoyennes tendent à questionner la place de l'art dans un territoire rural.
Et l'idée, c'était de ramener l'urbain, parce que nous sommes tous de plus en plus urbains, même quand on vit à la campagne, on est quand même très urbanisé. On a pris des habitudes d'aller à la ville faire ses courses, d'aller pour les spectacles, pour le cinéma, etc. On va vers la ville et voilà, et on oublie un peu la nature et la source. Donc l'idée, c'était de ramener l'urbain vers la nature.
Je pense qu'il y a encore un travail à faire sur le fait de rendre accessible l'art. Je pense que il y a beaucoup de gens, et surtout sur le territoire là, qui se disent que c'est pas pour eux, parce que c'est de l'art et que c'est parisien et qu'on n'ira pas. Quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas y aller pour ça. Quoi. Et, alors je sais pas comment on fait pour faire en sorte que dédramatiser le côté artistique. Et les gens qui sont venus à Verdon, la plupart m'ont dit « mais on connaissait pas ici ». Nous, on pensait que c'était la Beauce, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, quoi. C'est, on pensait que c'était la Beauce, qu'il n'y avait rien. Quoi. Et puis là, ils sont arrivés sur le Marais, en plus il y a eu une intervention de Liz Calliorca, une performance artistique en bord de Cisse, elle était même dans l'eau, et les gens sont venus en disant mais on ne connaissait pas, c'est super, des gens de Blois, des gens qui venaient un peu partout, ils disaient mais finalement c'est génial ici. Bah, ouais. Donc ouais, je pense que ça sert aussi à faire revenir les gens au bord du cours d'eau, et très franchement, quand les gens connaissent, après ils respectent plus que quand ils ne connaissent pas. Donc.
Le festival éco-citoyen et culturel H2O révèle le territoire fragile de la vallée de la Cisse, comme un lieu artistique et une source d'inspiration. Je me souviens, un événement éphémère. Je me souviens, une vallée artificialisée. Je me souviens. Une création sonore de Léna Fauri, Sarah-Lynn Nguyen Van Song et Loïc Rosin. À partir des personnes rencontrées et interviewées, Isabelle Darocha, Ludovic Cognard, Alexis Pandele, Yubi et Romain Évrard.